À tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici, à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé.
Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là.
Avez-vous déjà mis hors service un humain par erreur?
Non. Vous savez ce qui fait le plus peur dans la vie? Ne pas savoir votre place dans ce monde. Ne pas savoir pourquoi vous êtes ici.
Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection.
Science, friction. Une mission en collaboration entre Alain Vattier et Jean Ibanez. Une vieille collaboration sur Divergence FM, puisque nous avions travaillé il y a trois ans, Alain ?
Oui, bien trois ans, hein, ouais.
Sur le polar. Et donc là, nous nous lançons pour cette année sur la science-fiction.
C'est ça.
Et notre émission s'appellera Science-Friction.
Oui, exact.
Donc cette émission a pour but de...
Balayer. Le champ de la science-fiction.
Voilà. Et dans tous les domaines.
Genre, ouais, oui,
peu, tous les domaines.
Si bien le roman que la bande dessinée, le cinéma, les séries télé. C'est assez large, quoi.
Et donc, normalement, comme on avait fait pour le polar, on va fonctionner avec des invités. Aujourd'hui et la prochaine fois, donc pour ces deux premières émissions, nous allons travailler tous les deux avec Alain sur un film qui est un film culte, le Planète Interdite.
Oui, de Fred MacLeod Wilcox.
Et donc, les fois prochaines, on va peut-être changer de genre. On verra si on travaille sur une bande dessinée, un film,
oui.
Une série.
En fonction des disponibilités de nos éventuels invités.
Voilà. Donc, aujourd'hui, on inaugure notre série sur la science-fiction à partir donc de ce film qui est un film culte, Alain.
Planète interdite,
Forbidden Planet.
Voilà, qui est réalisé donc par Fred MacLeod Wilcox, qui est né en 1907 en Virginie et décédé en 1964 en Californie. Il a commencé comme assistant réalisateur entre 1929 et 1934, notamment de King Vidor, avant de se lancer dans la réalisation. Il fera en tout et pour tout une dizaine de films. Et il est surtout connu pour la série qu'il a fait sur la chaîne Lassie. Il en a fait trois, qui sont un peu connus. Et évidemment, pour le film dont on va parler aujourd'hui, qui est vraiment celui qui le fera rentrer dans l'histoire du cinéma, c'est Planète Interdite, hein, qui est un film assez exceptionnel pour l'époque, puisque c'est en fait le premier film de science-fiction en Eastman Color et... en panoramique. C'est le premier film qui dispose vraiment de gros moyens, puisque jusqu'à présent, les films de science-fiction étaient plutôt cantonnés aux séries B, donc avec des effets spéciaux un peu ringards et des costumes tout autant. Voilà, donc c'est vraiment, ça marque un tournant dans l'histoire du cinéma de science-fiction.
Alors Alain, il y a un livre aussi qui a pour titre Planète Interdite.
Oui, tout à
Alors,
fait.
C'est quoi ce livre?
Ben, en fait, il a été écrit suite au film. En fait, c'est le film qui a existé en premier. Et ensuite, dans la foulée, a été écrit ce roman, puisqu'il sort un an plus tard à peu près. Planète Interdite, qui reprend en gros l'histoire, mais à travers une narration complètement différente. Puisque dans le roman, il y aura trois narrateurs qui se succèdent. En premier lieu, on va avoir le docteur...
Morbus
Non, le premier narrateur, c'est le docteur Charles-Xavier Ostro.
Ostro.
Oui, ensuite, on va avoir Jean-Jacques Adams, qui est le commandant, et il y aura aussi le professeur Morbus, qui sera le troisième narrateur, et tout ça sera tissé ensemble.
Donc, une
narration très différente du film, hein, qui est la narration du film est beaucoup plus linéaire, on suit surtout le commandant, c'est quand même assez différent, quoi.
Donc c'est pas une réalisation cinématographique d'un livre, hein, c'est en fait, puisque le livre a été écrit en fait après.
Après, tout à fait. Oui. D'ailleurs, sur la couverture, on a Robbie le robot, hein, qui est une figure emblématique du film, qui a d'ailleurs eu une grande célébrité à l'époque. Il a même descendu les Champs-Élysées, il a été interviewé par la télévision française. Et on a entretenu tout un mystère autour de ce robot. On ne disait pas s'il y avait quelqu'un à l'intérieur ou pas, on laissait planer le doute. Enfin, il y a tout un truc autour de Robbie le robot qui sera réutilisé ensuite... dans un autre film, hein, où il sera le personnage principal d'ailleurs, où il est le compagnon d'un jeune garçon. Je ne me rappelle plus du titre du film, mais voilà. Et puis, on le retrouvera dans des séries télé comme Lost in Space, par exemple.
D'accord. Donc, voilà, il faut... Faut bien voir que voilà, ce film n'est pas la réalisation cinématographique d'un livre qui aurait précédé, comme bon nombre des films de science-fiction aujourd'hui.
Blade Runner, Stalker,
notamment les films de les livres de Philip K. Dick qui ont été transposés à l'écran.
Aussi, oui.
Nombre de films, donc dont le célèbre Blade Runner, mais bien d'autres.
Oui,
donc,
Scanner Darkly, par exemple, qui est
Total Recall.
Ou Total Recall aussi, ouais, tout à fait.
Donc ça, c'est intéressant pour nous par rapport à la question de la transposition et de la réalisation. Il y a ensuite la question voilà, qu'il faut nous poser, pourquoi ce film est devenu un film culte, hein. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, ce film-là, ce réalisateur qui a fait des films quand même très quelconques, on va dire.
C'était un petit artisan d'Hollywood. On le jugeait comme un bon artisan du cinéma hollywoodien. Effectivement, il n'a pas fait des films qui ont marqué le cinéma. Mais celui-là, par exemple, même Wilcox a été surpris par le succès de ce film. Hein. Il ne s'y attendait pas du tout. Quoi.
Ouais.
Ça a vraiment marqué les générations. Mais c'est parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est le premier en son genre à être... à disposer vraiment de moyens très importants pour sa réalisation. Et on a utilisé des techniques qu'on n'utilisait que pour les westerns, que pour les films épiques, comme l'Eastman Color, comme le panoramique, et qui n'étaient pas du tout utilisés dans les films de série B. Et aussi pour sa musique, qui est assez exceptionnelle aussi, puisque c'est une musique entièrement synthétique. C'est le premier film, premier long métrage à avoir une musique entièrement synthétique, quoi. À part peut-être quelques petits films expérimentaux, mais c'était des courts-métrages en général. Et ça, vraiment, un long métrage où il n'y avait que de la musique électronique, ça n'était encore jamais vu, quoi. Et ça a pas mal marqué l'époque, à tel point d'ailleurs qu'une association de musiciens avait protesté contre cette musique et qu'ils ont dû retirer le mot de compositeur au générique qui est marqué à la place effet électronique.
Et il y a une grande influence aussi sur des réalisateurs comme Stanley Kubrick.
Oui, Stanley Kubrick a reconnu sa dette envers ce film-là, hein, qu'il admirait beaucoup, mais aussi envers des séries comme Star Trek, puisque le réalisateur des Star Trek aussi était un grand fan, Gene Roddenberry était un grand fan de ce film, qui l'a beaucoup marqué et qui l'a beaucoup influencé pour réaliser sa série.
Donc, un film culte, on va essayer d'en parler un petit peu et de voir qu'est-ce qui, dans ce film, a pu donc tellement marquer les esprits. Alors, tu en as parlé de la musique, les effets spéciaux. Bon, il inaugure, là, le cinéaste. Mais les grandes lignes du scénario. Parce que si on lit, par exemple, le critique de cinéma Michel Sion, il dit... Il présente le film en disant « Ce film, il n'est pas terrible, on compare... c'est peut-être un des premiers, donc c'est pour ça qu'il a eu du succès. Mais il n'arrive pas, en fait, à rendre compte de ça. Le fait qu'il y a dans le film des éléments qui sont fondamentaux qui, pour la science-fiction et qui vont ouvrir, en fait, des pistes pour tous les réalisateurs qui vont suivre. Donc, c'est quoi les grandes lignes du scénario, Alain ? C'est, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Il y a un vaisseau spatial qui arrive sur une planète.
C'est ça. Il y a un vaisseau militaire, le croiseur des planètes unies, 557D, qui est envoyé sur Altaïr 4, où on avait envoyé, plusieurs années auparavant, une expédition scientifique à bord d'un vaisseau qui s'appelle le Bellérophon. Et ne voyant aucune nouvelle... venir de ce vaisseau, on envoie donc un commandant et une petite troupe sur place pour savoir ce qui s'est passé, que sont devenus les membres de l'expédition du Bellérophon. Donc voilà, le film commence comme ça, c'est donc ce fameux croiseur qui débarque sur la planète Altaïr 4. Voilà, où ils sont pas très bien reçus au départ puisqu'ils reçoivent une communication du professeur Merbius qui leur demande de faire demi-tour. Qui dit qu'il n'a besoin de rien, mais bon, donc il se pose quand même.
Il se pose quand même, et d'entrée de jeu, ce qui est intéressant dans le film, c'est que d'entrée de jeu, ils sont sous la menace. Le professeur Morbius leur dit qu'ils doivent partir parce qu'ils sont menacés.
Ils sont en danger, oui. Mais eux ne savent pas de quoi il s'agit, de ce danger. Pour l'instant, ils n'en ont strictement aucune connaissance ni aucune conscience. Pour eux, il n'y a que le professeur Morbius et puis sa fille aussi, parce qu'ils découvriront la fille, Altaïra. Et le fameux robot, là, Roby le robot, donc, ça ne représente pas vraiment une menace pour eux. Donc, ils ne comprennent pas l'avertissement du professeur.
Oui, il se demande d'ailleurs à un moment donné si la menace ne viendrait pas du robot.
Oui, le professeur ce serait plus tard.
Voilà. Et le professeur leur fait une démonstration pour leur montrer que, en fait, ce robot...
est incapable de tuer des humains. Voilà. Oui, il répond aux lois de la robotique d'Asimov, donc il ne peut absolument faire aucun mal à un humain. Au contraire, il est tenu de leur porter secours. Même s'ils sont en danger, le robot est tenu de leur porter secours. C'est une des lois aussi de la robotique d'Asimov.
Donc il y a cette menace qui plane donc, sur les nouveaux arrivants et un mystère.
Qu'est-ce qui est arrivé au balai au fond, en fait? Voilà. Ils ne savent pas trop. Quand le commandant demande à Morbius de l'expliquer, il lui dit qu'ils ont été déchirés par une force invisible. Et qu'est-ce que c'est que cette force invisible? D'où elle vient? Et pourquoi est-ce qu'elle a épargné le professeur Morbius et sa femme? Puisqu'à l'époque, il y avait encore sa femme qui mourra plus tard. Enfin, il lui raconte qu'elle est morte un an plus tard, mais de mort naturelle. Et alors, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi cette force donc, a épargné Morbius et sa femme et a décimé tout le reste de l'expédition du balai au fond, quoi? Donc je pense que c'est à ce moment-là que le commandant comprend que la fameuse menace en question, c'est cette force que ne parvient pas vraiment à décrire Morbius.
Oui, d'autant qu'il lui-même ignore en fait la nature complète de...
Ouais, enfin il l'ignore, il veut pas le voir, mais je pense qu'en fait il le sait, puisqu'à la fin il y a un retournement complet, il est mis devant l'évidence, il avait refoulé, c'est un savoir qu'il a refoulé en fait. Il sait ce que c'est que cette force. Mais je ne vais pas dire de quoi il s'agit, sinon on va déflorer toute l'intrigue du film. Oui. Mais je pense que c'est un savoir qu'il avait complètement refoulé, qu'il ne veut pas voir. Et à un moment donné, il est bien, quand sa fille est menacée, il est bien obligé de se rendre compte à l'évidence, quoi, en quelque sorte.
Donc il y a cette menace qui plane avec le mystère de la civilisation, hein, la civilisation des Krells qui aurait vécu sur cette planète.
Plusieurs millénaires auparavant. Oui.
Et qui aurait vécu longtemps.
Oui, c'est une civilisation très avancée technologiquement, qui avait atteint une espèce d'apogée, qui était une civilisation essentiellement rationnelle qui aurait complètement éliminé tout ce qui est inconscient, obscurité, etc.
Violence, agressivité,
pour ne se vouer qu'à, et qui serait devenu très très puissant, presque des espèces de dieux, quoi, qui sont capables de déplacer la matière, enfin, ce genre de choses, et qui ont fabriqué une machine immense de 30 km, une espèce de cube de 30 km d'arête, qui était en fait une seule machine qui s'autogénère, qui produit sa propre énergie. Et qui est un peuple qui a disparu en une nuit. Voilà, le professeur explique qu'en fait, en une nuit, tout ce peuple Krell a été éliminé.
Alors, cette menace qui pèse donc sur les nouveaux arrivants, donc sur le vaisseau du commandant Adams, en fait, elle est présente pas simplement, comment on pourrait dire, visuellement, elle est présente par, tu en as parlé Alain, par la musique.
Ouais, le travail sur les sons, effectivement, qui sont... En plus, ce qui est intéressant dans la musique, dans ce film, c'est que c'est pas du tout une musique illustrative ou redondante qui viendrait redoubler les images, quoi. Mais au contraire, elle est liée complètement organiquement au film. Elle fait vraiment partie intégrante du film. Elle a aussi une valeur narrative, une valeur sensitive. Enfin, c'est pas simplement... c'est là pour remplir du vide, quoi.
Elle est permanente.
Elle a une présence réelle, quoi. Ah. Ouais.
Quasiment de manière.
Elle fait partie de l'univers dans lequel on baigne, quoi. Vraiment.
D'accord. Alors, Alain, toi, tu as prévu donc pour notre émission une musique de John Cage.
Oui. Parce qu'il faut savoir que cette musique, en fait, a été écrite par un couple qui s'appelait Bébé et Louis Baron, mais a été supervisée par John Cage. John Cage, qui est un pionnier de la musique expérimentale contemporaine. Et donc là, j'ai choisi un morceau qui s'appelle Three Dances et qui date du milieu des années 40.
Alors Alain, tu peux nous redire le titre et le nom du compositeur ?
Ah, c'était John Cage et le morceau s'appelle Three Dances, il date du milieu des années 40.
Donc vous êtes sur Divergence FM et nous sommes en train de parler avec Alain Vattier de Planète Interdite. Alors Alain, les personnages de Planète Interdite, ouais. Qu'est-ce qu'on peut en dire, les personnages principaux? Il y a ce vaisseau spatial avec le commandant Adams, c'est ça?
Oui, le commandant Adams, ouais, tout à fait. C'est un personnage, on va dire, qui a l'air plutôt froid, un peu plutôt pragmatique, qui manifeste peu d'émotions. Hein. Il est peu expansif, hein, il me semble, comme personnage. Il a toujours la tête sur les épaules, quoi.
Donc c'est en effet quand même un vaisseau qui est militaire.
Oui. Il y a que des mecs d'ailleurs dans ce vaisseau.
Que des hommes. Qui sont partis depuis longtemps.
Dans le roman, on apprend qu'ils ont voyagé un an dans l'hyperespace. Mais en fait, entre le début et la fin, quand ils sortent, il s'est écoulé 10 ans. Mais dans l'hyperespace, eux, ils ont vécu qu'un an.
D'accord.
Voilà. Il y a une compression, ce qu'ils appellent dans le roman, ils parlent ça de compression temporelle. C'est marrant parce qu'ils n'en parlent pas du tout dans le film. Et donc, en fait, ça fait s'ils ont voyagé qu'un an, ça correspond à 10 ans. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Oui, tout à fait.
Parce qu'ils voyagent plus vite que la lumière, bien plus vite que la lumière. Donc, ce qu'on appelle une compression temporelle.
D'accord. Donc, en fait, ce commandant avec ses hommes arrive sur une planète qui paraît, dans un premier temps, complètement déserte, une espèce d'île déserte, si on peut dire, dans l'univers. Et en fait, ils vont découvrir que cette planète est quand même habitée par le professeur Morbius et sa fille. Mmh. Et quand ils arrivent, le commandant Adams, le médecin qui s'est...
Le médecin s'appelle Ostro.
Ostro et le lieutenant Jerry dans le film.
Ouais, Farman. Hein.
Sachant que dans le livre, les prénoms ont été, ou les noms ont été...
Sauf pour Morbius. Ouais, ils ont été francisés, ouais. Puisqu'effectivement, Ostro s'appelle Charles Xavier.
Charles Xavier comme celui des
X-Men.
Des X-Men.
Et l'autre, comment il s'appelle
Jean-Jacques Adams,
ouais, c'est d'accord. Ça, ils ont tous des prénoms français. Ouais.
Donc, en fait, quand ils arrivent sur cette planète qui paraît complètement déserte, il y a quand même une oasis dans ce, puisque, tout d'un coup, quand ils sont invités tous les trois, donc le médecin, le lieutenant et le commandant Adams, quand ils sont invités chez le professeur Morbius, ils arrivent dans un lieu qui est une espèce de petit paradis.
Tout à fait, une oasis perdue au milieu du désert, adossée à la montagne. Où vivent quelques animaux, il y a un beau jardin, etc.
Oui, ça fait penser un peu à une espèce de paradis, à l'Éden.
C'est un peu l'Éden, oui. Ils vivent avec des animaux. En paix, il y a même un tigre sauvage qui est complètement...
Qui est une espèce de chaton.
Voilà, apprivoisé par Altaïra, la fille de Morbius.
Donc, en fait, ces soldats, ces militaires arrivent sur une planète dans laquelle, en fait, ils découvrent donc un monde... qui, comment on pourrait dire, les surprend, hein, puisque c'est un monde qui est, on leur dit, menaçant, mais en même temps, qui n'a pas l'air d'être menaçant, puisque, en fait, là où ils arrivent, c'est une espèce de petit paradis.
Oui, enfin, le petit paradis, c'est juste pour le commandant, le lieutenant et Morbius, parce que les autres soldats, ils sont à plusieurs kilomètres, en plein milieu du désert, et ils surveillent le vaisseau, quoi. Ouais. Ils n'y auront pas du tout accès à ce petit paradis. Ils n'y iront jamais.
En tout cas, on voit que ce commandant arrive dans ce monde avec ses hommes et ils vont être confrontés donc à des mystères, des énigmes.
Ouais,
et notamment aussi, ils vont être confrontés à la fille du professeur Morbius qui s'appelle
Altaïra.
Altaïra,
en diminutif aussi, il l'appelle Alta. Qui est aussi le nom de la planète d'ailleurs, hein, parce qu'on est sur Altaïr 4 quand même.
Ouais.
Elle s'appelle Altaïra, c'est une espèce de féminisation du nom de la planète.
Et donc en fait c'est une espèce de Ève, si l'on peut dire, puisqu'elle est comme un enfant.
Oui, elle est complètement ingénue.
Elle ne sait rien du sexe ou de la sexualité.
Théoriquement si, Parce qu'elle elle explique qu'elle a appris la biologie. L'autre, oui. L'autre lui fait en théorie.
En théorie. Voilà. Oui, et puis aussi sur les mœurs, en fait.
Oui.
Quand le lieutenant veut l'embrasser, il ne comprend pas très bien, en fait, oui. À quoi tout ça rime.
Oui, lui, il lui explique que ça, c'est bon pour la circulation, ce genre de trucs.
C'est pour stimuler.
C'est une vieille coutume. Enfin, bon, il raconte total bobard. Ouais.
Voilà. Donc, bon, ce qui est intéressant quand même, c'est que en fait... Elle ressent, elle est ingénue et elle ressent pas d'émotion.
Au départ, non.
Au départ, oui. Hein, au départ, donc en fait, le père d'Altaïra a construit un monde autour d'elle, hein, qui est un monde qui doit la protéger et qui doit aussi la protéger de la peur, mm-hmm. Hein, puisque lui, il a été quand même quelque peu effrayé par le fait que tous les autres habitants, tous les autres, en fait, occupants du vaisseau dans lequel il est arrivé lui aussi sur cette planète...
Le Bellérophon.
Le Bellérophon, ont été tués, et tués de manière extrêmement violente, puisqu'ils ont été...
Déchiquetés,
par un monstre...
Invisible.
Donc, il y a cette idée, voilà, d'une protection très grande qui est faite pour protéger sa fille.
Ouais.
Et en fait, elle est dans une situation comme si elle ne ressentait finalement aucune émotion. Ça fait penser un peu, moi, j'ai cette, comment on pourrait dire, cette idée que Altaïra, avec son père, est comme Siddhartha avec son père. Siddhartha qui va devenir Bouddha et qui est en fait maintenu dans des palais, ouais. Justement pour ne pas connaître la peur, la vieillesse, la maladie, etc., etc. Hein, et pour être épargné par rapport aux émotions, et qui tout d'un coup va être confronté donc à toutes ces émotions.
Au système des castes, en fait.
Voilà, par exemple, oui. Mmh. Par exemple, hein, on retrouve cette idée, voilà, d'une surprotection parentale qui viendrait en quelque sorte neutraliser toute émotion.
Ouais, sauf que les émotions finissent par surgir du coup même chez Alta, puisqu'elle tombe amoureuse donc du commandant assez rapidement quand même. Ça se déclenche assez vite.
Il y a une fulgurance.
Oui, il y a une espèce de fulgurance. Ouais.
Alors, on voit un petit peu donc ces personnages. Il y a l'ingénuité d'Altaïra. Il y a le professeur Morbius. Comment on peut le décrire, ce professeur Morbius ?
C'est un scientifique, c'est un personnage, comment je pourrais le décrire, qui croit vraiment en la science, et qui pense que vraiment la science peut faire des hommes des dieux. Hein, et lui, il a comme exemple justement le peuple Krell, hein, qu'il étudie qui est, petit à petit. Même si c'est que ce peuple a disparu en une nuit, il pense que quand même la science pourrait arriver à faire de l'humanité de purs créateurs. Quoi.
Donc Morbius, c'est un personnage qui est assez distancié, qui va petit à petit révéler des secrets, des mystères.
Oui, au compte-gouttes, ouais, effectivement.
Donc on est là sur des personnages quand même très, très distincts les uns des autres. Hein. Le commandant qui est quelqu'un, il le dit lui-même, très pragmatique, et donc qui est quelqu'un qui obéit aux ordres. Hein. Et le professeur Morbius qui a un pouvoir. Hein. Ouais. On sent bien qu'il a un pouvoir, quelque chose qui fait qu'il est...
Il sait lui déjà, voilà. Par rapport à ceux qui arrivent là, il sait ce qu'il y a eu sur cette planète avant que lui-même et le Bellérophon n'arrivent. Il a une connaissance de ce monde que les autres n'ont pas. Ouais. Et c'est, en quelque sorte, c'est un peu malgré lui qu'il va devoir dévoiler cette connaissance au commandant et au docteur. Parce que, apparemment, il n'avait pas du tout l'intention de leur parler des Krells. C'est quand le Morbius les surprend dans son bureau en train de fouiller dans ses papiers qu'il leur dit « Bon, je vais vous expliquer de quoi il en retourne ». Mais apparemment, à l'origine, il n'en avait pas du tout l'intention. S'il avait pu les laisser dans l'ignorance, je pense qu'il l'aurait fait. Il aurait attendu qu'ils s'en aillent et qu'ils ne reviennent plus jamais. Quoi.
Alors, il y a ce personnage qui n'est pas humain, hein,
le robot.
Le robot, Robbie et le robot. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui ?
De Robbie ?
Bah, qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? C'est un
personnage attachant, ça c'est sûr. Ouais,
c'est un serviteur.
Il est capable, en fait, c'est un peu aussi une espèce de dieu, puisqu'il est capable de synthétiser n'importe quelle matière en n'importe quelle quantité. Tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'on lui demande. Quoi. Et on peut aussi bien des diamants que du whisky, que des plaques de tôle, enfin n'importe quoi. Il suffit qu'il analyse, on lui donne un échantillon de matière et il le reproduit. Autant qu'on en veut, quoi.
C'est le serviteur idéal.
Idéal, oui, voilà. Oui, tout à fait. Et c'est aussi le protecteur idéal, puisque c'est aussi une de ses fonctions. Parce qu'à un moment, le commandant et le docteur viennent la nuit dans la maison et le robot les empêche de passer, parce qu'il est là pour protéger la maison.
Alors, si on devait définir la science-fiction à partir de ce premier film, La Planète Interdite, qu'est-ce qu'on pourrait dire ?
Eh ben, dans le roman, La Planète Interdite, il y a une petite définition de la science-fiction au tout début de l'ouvrage. Hein. Je vais vous le lire. Hein. C'est « Qu'est-ce que la science-fiction ?» Comme son nom l'indique, un mélange de réalité et d'imagination. C'est l'aventure de demain. Voilà, ça c'est la définition qui est écrite dans Planète Interdite.
À tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé.
Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là.
Avez-vous déjà mis hors service un humain par erreur ?
Non. Vous savez ce qui fait le plus peur dans la vie ? Ne pas savoir votre place dans ce monde. Ne pas savoir pourquoi vous êtes ici.
Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection.